Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. La fin du couvre-feu et l'allègement des conditions d'entrée en Tunisie, nous y reviendrons avec le docteur Khalil Zaouia, ancien ministre et président d'État catholique. Après la mort du petit Ryan, tombé au fond d'un puits dans le nord du Maroc, le royaume a décidé de recenser tous les puits abandonnés ou clandestins du pays. Près d'une semaine après la dégradation samedi dernier d'une statue de l'émir Abdelkader à Amboise, regard dans votre journal sur le lien qui unit l'émir à la ville d'Amboise, là où il avait été assigné à résidence au 19e siècle. Nous écouterons l'écrivaine Martine Lecoz, elle réside à Amboise et a écrit deux livres sur l'émir Abdelkader. C'était il y a 17 ans en France, le 11 février 2005, la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées était promulguée. L'alerte nationale est lancée, l'établissement français du sang fait état d'une urgence vitale face à une pénurie de dons du sang en France. Nous écouterons le professeur Jacques Chiaroni, directeur de l'établissement français du sang en région PACA et Corse. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Céline Calvez, députée de La République En Marche des Hauts-de-Seine, coordinatrice de la Commission des Affaires Culturelles et de l'Éducation de l'Assemblée Nationale. Elle évoque le succès du Pass Culture auprès des jeunes, extrait dans votre édition. La présidence du gouvernement tunisien a annoncé la levée du couvre-feu sur l'ensemble du pays, une mesure entrée en vigueur hier. L'interdiction des rassemblements et des manifestations est maintenue pour une semaine supplémentaire. Les autorités ont aussi annoncé un allègement des conditions d'entrée en Tunisie. Nous y revenons avec le docteur Khalil Zaouia, ancien ministre, président d'État catholique.
La situation sanitaire reste à un niveau endémique stable, on passe par un plateau. C'est-à-dire que actuellement, on a des taux de positivité qui sont autour de 40%, on a des taux de décès qui sont autour de 60-65 décès par jour. Les services de santé ne sont pas submergés, notamment les services de réanimation, mais on a un nombre de malades conséquent. C'est-à-dire que actuellement, on arrive quand même à gérer les malades Covid et positif et continuer l'activité habituelle dans les différents services hospitaliers. Le couvre-feu n'a pas eu d'argument majeur scientifique. Le Tunisien n'a pas adhéré à ce couvre-feu, même s'il a été appliqué de manière stricte. Mais le Tunisien n'a pas compris l'intérêt du couvre-feu, d'autant plus que c'est la période hivernale et généralement... À partir de 9h ou 10h du soir, la majorité des Tunisiens sont chez eux. Donc on ne voit pas quelle est l'utilité de ce couvre-feu. Donc il a été annulé. Et ce qui reste comme nouvelle mesure, c'est qu'à partir du 15, les entrées en Tunisie sont allégées. On ne demandera plus de tests négatifs pour entrer en Tunisie. Il suffit d'avoir une vaccination complète, c'est-à-dire deux doses de vaccin pour entrer en Tunisie sans difficulté pour ceux qui sont vaccinés. Ceux qui ne sont pas vaccinés, et notamment les enfants, il faut un test PCR négatif avec un délai de 48 heures avant l'entrée en Tunisie.
La Tunisie qui vit ainsi un retour progressif à la normale.
Nous vivons un retour à la normale. En fait, les mesures strictes d'interdiction de réunion, de rassemblement et tout ça n'ont jamais été respectées. La réalité du terrain est autre.
Et le pass vaccinal reste-t-il demandé aujourd'hui en Tunisie dans la plupart des lieux publics?
Non, je dirais qu'il est exigé dans à peu près 30%, 30 à 40%.
Et quels sont les lieux concernés?
C'est variable. Hein. Si vous allez à un service, à une poste par exemple, elle peut être appliquée dans une poste et pas dans une autre. En fait, les gens ne sont pas très convaincus de l'utilité de ces mesures. Voilà, en réalité, c'est ça.
Mais pour le moment, la fin du pass vaccinal n'est pas annoncée en Tunisie.
Non. On a l'impression que les citoyens s'occupent surtout de boucler leur fin de mois et que la situation sanitaire les concerne un peu, pas beaucoup.
Le docteur Khalil Zaouia, ancien ministre et président d'État catholique. Quelques centaines de magistrats et d'avocats ont manifesté hier sur les marches du palais de justice à Tunis. Ils protestaient contre la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature par le président Kais Saied. Le Fonds monétaire international a annoncé la tenue d'une mission en mode virtuel en Tunisie. Ce sera du du 14 au 22 février prochain. Il s'agit de poursuivre les discussions avec les autorités tunisiennes qui ont demandé une aide de l'institution. Après la mort du petit Rayan dans le nord du Maroc, le ministère marocain de l'équipement va recenser tous les puits abandonnés ou clandestins. Les contrevenants seront sanctionnés. L'opération annoncée va consister à fermer ces puits ou les remettre en état pour prévenir tout risque pour les populations. Cet enfant de 5 ans tombé accidentellement au fond d'un puits exigu et asséché a été extrait samedi dernier sans vie malgré les efforts acharnés des sauveteurs pendant 5 jours. Une enquête est ouverte après les dégradations de la sculpture en hommage au héros algérien Abdelkader. Le maire d'Amboise a maintenu l'inauguration malgré cet acte de vandalisme commis samedi. L'occasion de nous intéresser au lien qui unit l'émir à la ville d'Amboise où il avait été assigné à résidence au 19e siècle et où 25 de ses proches reposent dans un cimetière aménagé par l'artiste Rachid Koraïchi. Je vous propose d'écouter l'écrivaine Martine Lecoz. Elle réside à Amboise et a écrit 2 livres sur l'émir Abdelkader avant de s'intéresser à la philosophie indienne.
Si je n'avais pas étudié un peu les textes même de l'émir, je crois que je n'aurais pas été capable d'entrer mais un tant soit peu dans la philosophie indienne, les philosophies indiennes. Il y a des rapprochements possibles par la voie soufie. Et ça, je l'ai dû à l'émir. Je ne crois pas que j'aurais pu passer directement de ma foi de chrétienne et même des quelques études juives que j'ai pu mener de mon côté. Mais je ne crois pas que j'aurais pu accéder à l'Inde sans l'émir. Alors c'est peut-être difficile à expliquer, mais il y a cette notion d'absorption dans le souffle, d'être le fait d'être par la voie spirituelle réabsorbé dans le divin.
Quel souvenir a laissé l'émir Abdelkader à Amboise?
Ah mais c'est drôle parce que c'est un souvenir très vivant, parce qu'il y a encore quelques années, j'ai rencontré des personnes déjà âgées, qui avaient bien 75 ans, 80, 85 ans, qui m'ont rapporté leur souvenir quand ils étaient petits-enfants, leurs grands-parents leur racontaient à eux qu'il voyait l'émir se promener dans les vignes. Il voyait son burnous blanc dans les vignes autour d'Amboise. Et puis nous savons que, pas les 2 premières années de son séjour à Amboise, mais pendant les 2 dernières années, les portes se sont ouvertes. Il pouvait sortir, il était escorté, mais les proches, les plus proches, et même parmi les dignitaires qui étaient avec lui, certains ont même fait les vendanges avec les Amboisiens. Alors, c'est vous dire que les liens s'étaient beaucoup resserrés et que c'était devenu une amitié. Et puis, dans le cas de l'émir et du curé d'Amboise en particulier, c'était absolument magnifique. Alors que le curé d'Amboise, évidemment, n'avait pas l'érudition de l'émir. Mais il avait une droiture. Le dialogue était possible parce qu'ils avaient la même droiture.
Martine Lecoz, auteure de 2 livres sur l'émir Abdelkader. Elle répondait à Loïc Barrière. Un attentat suicide en Somalie. Au moins 6 personnes ont été tuées, 12 blessées hier à Mogadiscio. La capitale somalienne a été ces dernières semaines le théâtre de plusieurs attentats. Les États-Unis condamnent fermement l'attaque des rebelles yéménites Houthis déjouée hier en Arabie Saoudite. 12 civils ont été blessés par des fragments de drones tombés sur un aéroport. En Syrie, 9 combattants affiliés aux forces kurdes et 9 djihadistes ont été tués dans des attaques nocturnes. Cela s'est passé dans la province de Deir ez-Zor, dans l'est du pays. C'était il y a 17 ans en France, le 11 février 2005, la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées était promulguée, un texte de référence sur les droits des personnes en situation de handicap, avec pour objectif notamment de favoriser l'accès à l'autonomie. L'alerte nationale est lancée. L'établissement français du sang fait état d'une urgence vital face à une pénurie de dons du sang en France. Le professeur Jacques Chiaroni, directeur de l'établissement français du sang en région PACA et Corse.
La situation est inédite car il faut savoir que depuis les 21 ans d'existence de l'EFS, nous sommes vraiment à un niveau de réserve nationale qui est en deçà du seuil de sécurité. Notre seuil étant à 100 000 poches, nous sommes à 70 000, il nous manque 30 000 poches qu'il faut pouvoir évidemment récupérer dans les jours qui viennent. Donc une situation extrêmement critique qui pourrait évidemment s'avérer compliquée pour transfuser les patients dans les jours ou semaines qui viennent. Et évidemment, il est inenvisageable de ne pas avoir de sang pour transfuser nos patients.
Il n'y a pas pour le moment de conséquences directes, mais la situation est particulièrement alarmante.
La situation est inquiétante dans la mesure où si nous continuons et si nous n'avons pas de sursaut, je dirais, chez nos donneurs, eh bien nous devrons envisager de reporter tout ce qui est reportable et qui est consommateur potentiellement de sang, de façon à réserver le sang, nos stocks pour les transfusions en urgence. Donc, évidemment, cela serait néfaste de faire attendre à nouveau des personnes qui attendent une intervention ou qui attendent autre chose. Et donc, on ne voudrait pas arriver à cette action. Et c'est pour ça qu'il nous faut absolument un sursaut de citoyenneté dans les jours qui viennent.
Cette situation, malheureusement, inédite, est-elle liée à la crise sanitaire inédite vécue en France ?
Oui, effectivement, et vous avez pu le voir au cours de ces deux dernières années, les nombreux appels que l'établissement français du sang a lancés. Nous avons eu évidemment des tensions permanentes. Il a été très difficile de revoir notre, d'organiser nos collectes de sang. C'était très difficile d'aller dans les universités alors que les étudiants sont de très bons donneurs. Au niveau des entreprises, étaient fermées. Maintenant, ça se poursuit avec le télétravail. Donc, des personnes qui donnaient le sang sur leur lieu de travail, eh bien, ont perdu leur habitude et c'est très difficile de les réorienter vers d'autres collectes. D'une manière générale, il faut dire ce qui est la société vit, on doit dire, de façon difficile cette épidémie inédite. Et donc, on retrouve quand même une faible mobilisation qui aboutit aussi à une faible fréquentation de nos collectes. Et dans le même temps, de notre côté, au niveau de l'établissement français du sang, je dois dire que, d'une part, nous avons des difficultés de recrutement de personnel médical, vous voyez, ce qui impacte l'organisation de nos collectes, et puis, comme pour tout, un fort absentéisme lié à cette deuxième vague de l'épidémie liée à Omicron. Donc, tout cela réuni fait que nous sommes aujourd'hui avec un appareil de collecte qui a été évidemment énormément bousculé malgré nos ajustements, notre agilité dans l'organisation et qui fait que là, nous atteignons quand même un niveau qui est alarmant.
Le professeur Jacques Chiaroni, directeur de l'établissement français du sang, région PACA, Écorce. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Céline Calvez, députée de La République En Marche des Hauts-de-Seine, coordinatrice de la Commission des Affaires Culturelles et de l'Éducation de l'Assemblée Nationale. Elle évoque le succès du Pass Culture auprès des jeunes. Extrait.
Cette aide, on a commencé à la mettre en place en 2019 et puis en 2021, on l'a généralisée à tous les jeunes de 18 ans qui reçoivent ainsi, un accès au Pass Culture, c'est 300 euros dans lequel ils vont pouvoir piocher « je commande des livres, je vais à un spectacle, je m'achète une guitare ». Ce n'est pas forcément être seulement spectateur, mais c'est être aussi acteur culturel. Et donc, ils se sont emparés. Depuis le mois de janvier, ça concerne aussi les lycéens, parce que on va pouvoir leur permettre aussi de commencer à goûter au Pass Culture. Alors, malheureusement, ils n'auront pas 300 euros avant leurs 18 ans, mais ils auront comme ça une partie qui peut aller de 30 à 50 euros, dont une partie peut être dépensée dans un cadre scolaire, une sortie collective par exemple, et ça, le relais de l'éducation nationale est fort utile, et puis ils vont pouvoir comme ça avoir de plus en plus de liberté avec une part individuelle. Aujourd'hui, quand on regarde les chiffres de ce que achètent ou de ce que consomment les jeunes, on a le premier poste, ce sont les livres. Et ce sont les livres, et en fait les livres, via le Pass Culture, vous ne pouvez pas les commander sur une grande plateforme. Vous pouvez aller retirer ça chez votre libraire. Donc on a vu des libraires ravis de voir venir chez eux des jeunes de 18 ans qu'ils n'avaient pas vu autrement et qui viennent parfois leur prendre une BD, un manga. On a beaucoup parlé des mangas, mais qui peuvent repartir aussi avec des romans ou avec des essais. Et ça, c'est un pari gagné aussi bien pour les jeunes que pour ces professionnels que sont les libraires. On veut aller de plus en plus pour des offres exclusives, c'est-à-dire que l'on propose des moments privilégiés, par exemple un spectacle où on va pouvoir visiter les coulisses, rencontrer le metteur en scène, réservé aux détenteurs du Pass Culture.
Et ce Pass Culture pourrait être étendu à la population adulte via les comités d'entreprise, par exemple, ou même aux salariés des PME qui n'ont pas de comité d'entreprise ?
Eh bien, c'est une bonne question et c'est exactement celle que j'ai posée hier à Sébastien Cavalier qui passait devant notre commission pour donner un premier bilan du Pass Culture. C'est lui qui dirige la société Pass Culture. Eh bien, les questions se posent de savoir comment on pourrait élargir. Aujourd'hui, ce sont les jeunes qui sont privilégiés, mais on pourrait imaginer effectivement que ça puisse être étendu. C'est imaginable. La piste des comités d'entreprise est une bonne piste. On pourrait très bien imaginer que dans le cadre d'une responsabilité, on va dire, éducative et culturelle des entreprises, on leur permette d'abonder le pass culture des enfants de leurs salariés, par exemple. Si je suis salarié et que mon fils a 18 ans et un pass culture, je pourrais avoir une offre de la part de mon comité d'entreprise. Eh bien, plutôt que d'avoir des tickets cadeaux, eh bien, de dire, ça va aller directement sur le pass culture de votre enfant. Je trouve que c'est bien et puis ça peut ouvrir le champ à ce que la répartition de la finance soit un peu de l'État, un peu des entreprises. Donc, je trouve que c'est un formidable outil. Mais le pass culture, vous savez, si aujourd'hui on le donne un accès avec une dotation de 300 euros aux jeunes de 18 ans, chacun de nous peut télécharger le pass culture. On peut regarder ce qui se passe autour de nous. Ça devient déjà un outil pour regarder quelle est l'offre de concerts, de cours de musique, d'expositions ou de livres autour de moi. Moi, je n'ai pas 18 ans, je n'ai plus 18 ans depuis un petit moment, mais par contre, j'ai téléchargé l'application du Pass Culture. Et je trouve que c'est vraiment déjà un bon outil pour se repérer parmi les offres culturelles autour de soi.
Céline Calvez, députée La République En Marche des Hauts-de-Seine, elle est l'invitée du Pluriel à 19h et 23h, émission présentée par Loïc Barrière. Fin de cette édition. Un très grand merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.